Donc nous voilà au premier jour de notre séminaire, donc intitulé « le salut qui reste, qui demeure un terme, je dirais, connu par tous les chrétiens, mais il est important que, en ce qui nous concerne, ça ne reste pas simplement dans la théorie, mais que nous puissions comprendre qu'est-ce que le salut, afin de pouvoir aussi le pratiquer et de pouvoir aussi tirer tous les bénéfices. Parce que si nous parlons de salut, nous parlons forcément d'une faveur qui nous a été faite. Et aujourd'hui, lorsque notre vie chrétienne ne reflète pas ce que attend le Seigneur, ne reflète pas la gloire de Dieu, ne reflète pas la vie selon Dieu, c'est-à-dire la paix et la joie, cela veut dire quelque part que nous n'avons pas totalement saisi qu'est-ce que était le salut de Dieu pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits, de tous ces bénéfices, de toutes les conséquences positives que nous sommes appelés à vivre dans le salut. Et dans le monde, lorsque l'on parle de salut, certains vont l'interpréter, vont le comprendre, peut-être par le fait d'avoir été guéri par une maladie, par le fait d'avoir été délivré d'une situation qui était difficile, qui était compliquée. Mais pour nous, enfants de Dieu, qui avons compris, qui avons connu qui était le Seigneur, nous devons être capables de réaliser et de comprendre l'importance du salut et tout ce que ça a impliqué, non seulement pour le vivre, mais aussi d'être capable de pouvoir l'expliquer à d'autres. Nous nous souvenons de cette parole de Paul à Timothée. Il lui a dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, enseigne-le à d'autres afin qu'eux aussi soient capables de l'enseigner. » Donc c'est une chose que de pouvoir prendre les choses, mais c'est une autre chose que de pouvoir les donner. Et c'est ça la bonté de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. C'est que ce que nous recevons de lui, nous puissions aussi le partager à d'autres. Et le salut fait partie du don de Dieu, de la grâce de Dieu que le Seigneur appelle tous les hommes à connaître. Et voici, nous sommes nous qui avons compris les premiers, les instruments que le Seigneur veut utiliser afin que cette grâce soit partagée et que le salut soit connu de tous les hommes. Nous prenons le livre de la Genèse, le commencement, pour définir tout simplement l'origine du péché qui va nous aider à répondre à la question « Pourquoi il y a salut ?» Parce que s'il y a salut, c'est qu'il y a eu avant cela une situation qui nous condamnait, une situation qui nous a mis tout simplement dans des problèmes et dans la difficulté. Et nous voulons essayer de comprendre comment les choses ont commencé pour que l'on ait aujourd'hui à parler du salut. Genèse, nous prenons au chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous allons ensuite au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu, que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Voilà l'histoire du commencement de toute chose, et voilà aussi la tragédie donc, que l'humanité va connaître. Le Seigneur va créer toute chose et va mettre l'homme dans les meilleures des conditions pour qu'il soit heureux, tant sur le plan spirituel, sur le plan moral que sur le plan social. Tout avait été fait pour que l'homme n'ait qu'à simplement profiter de la vie et de toutes les belles choses que Dieu avait créées pour lui. Et voici que le Seigneur va lui donner un seul ordre, de ne pas toucher un arbre, l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Et la Bible nous dit que le serpent qui était le plus rusé, habité par le diable, eh bien, va aller séduire la femme et la femme à son tour va aussi donner, je dirais, de ce fruit-là à son mari. Tous les deux vont donc transgresser l'ordre que le Seigneur avait donné en leur disant de ne pas toucher à cet arbre-là. Et c'est de là où le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'un homme qui a voulu être égal à Dieu. Parce que le diable lui dit, le Seigneur sait que si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme lui. Et dès ce moment-là, le regard de la femme sur l'arbre qui était défendu va changer. La Bible nous dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger, que le fruit était bon à manger, alors que l'arbre était là déjà depuis. Mais voici, sous l'influence du diable, ils vont être tentés, poussés à vouloir être comme Dieu et désobéir à l'ordre de l'Éternel. Et c'est ainsi que le péché va entrer dans le monde et il va s'en suivre les sanctions en ce qui concerne les animaux, mais même la création. Le Seigneur dit à Adam au verset, au chapitre 3, au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc voilà que à partir de la désobéissance d'Adam, même son péché a emmené aussi des conséquences négatives sur la terre. Ces conséquences que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au moment où le Seigneur crée toute chose, il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits que tu trouveras, sauf l'arbre défendu. Donc l'homme était tranquille, il mangeait des fruits. Il ne mangeait pas de viande, il n'y avait pas besoin de chasser, il n'y avait pas besoin de tuer pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se vêtir. Il était vraiment dans la gloire de Dieu, il était dans la présence de Dieu, il était dans la paix, dans une paix que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Et voilà que par désobéissance, il va désobéir, il va, transgresser la loi et entrer toute l'humanité maintenant dans la difficulté à cause du péché. Et c'est de là, bien-aimés, que nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Que ça soit les guerres, que ça soit les enlèvements, les viols, la cupidité, la jalousie, le mensonge. Toutes ces choses-là sont les conséquences de la désobéissance d'Adam par lequel le péché est entré. Et puisque tous les hommes sont descendants d'Adam, tous les hommes ont hérité de ce virus-là qu'on appelle le péché et qui fait que, par leur propre force désormais, ils ne peuvent plus vivre dans la volonté de Dieu, ils ne peuvent plus faire ce qui est propre au Seigneur. Parce que le péché est venu nous polluer et nous diminuer, je dirais, dans l'autorité que le Seigneur avait donnée premièrement en disant à l'homme que tu domineras sur tout ce qui se meut sur la terre. Adam avait reçu l'autorité sur toute la terre, c'est lui qui avait donné le nom même aux animaux. Et voilà que par la faute, par la désobéissance, par l'orgueil, toute l'humanité désormais est sous l'emprise du péché, du virus qu'on appelle le péché et qui emmène les hommes à produire et à faire encore d'autres péchés qui sont donc, comme je l'ai cité, le mensonge, le vol, la haine, la colère, toutes ces choses-là qui ne construisent pas, mais qui emmènent l'homme tout simplement dans la destruction. Voilà comment le péché est entré dans le monde par la désobéissance. Et cette désobéissance-là, nous la voyons encore aujourd'hui d'une certaine manière, lorsque l'homme cherche à vouloir renier le Seigneur pour demeurer lui-même son propre chef. Le péché habite tout homme. Et tout homme aujourd'hui qui n'est pas dans le salut de Dieu, nous allons l'expliquer après, est donc sous la domination de ce péché. Et étant sous la domination, il n'est plus libre de lui-même, il n'est plus libre de faire ce qu'il veut, mais il est contraint d'obéir à une loi qui est au-dessus de ses forces. Parce que lorsque nous parlons de péché, bien-aimés, nous parlons de quelque chose qui est spirituel. Le péché qui a pollué la terre, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons toucher de nos mains. C'est une puissance qui agit sur la terre, c'est une puissance qui agit dans tout homme. Ce qui fait que les moyens que les hommes peuvent mettre en place pour tenter d'éradiquer le mal sont totalement impuissants. Parce que pour une question spirituelle, il y a besoin d'une réponse aussi spirituelle. On ne peut pas regarder les choses spirituelles avec un regard charnel ou se dire qu'on va changer les choses avec des moyens charnels. C'est impossible. Si nous sommes habités par le péché, alors il nous faut quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus efficace que toutes les lois que les hommes peuvent mettre en place afin de pouvoir, je dirais, rendre le pays habitable. Parce que nous sommes sur une terre remplie de problèmes. Et souvent, certains pensent que Dieu est mauvais, Dieu n'est pas bon, parce qu'il y a tant de mal. Beaucoup d'entre nous, autrefois, nous avons pensé de la sorte. On s'est interrogé sur l'existence de Dieu lorsque on voyait tout ce qui se passait autour de nous, lorsque nous-mêmes nous avons subi les difficultés de la vie, la méchanceté des hommes, nous avons quelquefois remis en doute l'existence même du Seigneur. Mais voilà que la Bible vient nous apporter une réponse très simple. Les douleurs de la terre, les maux que nous connaissons sur la terre, Dieu n'en est pas à l'origine, mais c'est tout simplement l'homme par sa désobéissance qui a permis au mal d'agir, qui a fait entrer le mal. Et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Nous prenons Romains chapitre 7. Et nous allons voir quelles sont les conséquences, quelle est la puissance du péché, comment elle agit finalement sur l'homme qui n'est pas encore entré dans le salut du Seigneur. Je disais que le problème du péché est un problème avant tout spirituel. Et c'est normal que par nos moyens humains, nous ne pouvons pas faire face à cette réalité, faire face à cette puissance, faire face à ce problème-là qui existe depuis le commencement et qui demeure encore aujourd'hui. Romains chapitre 7, nous lisons à partir du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà l'observation de l'apôtre Paul. Il dit qu'il est conscient de sa faiblesse, mais il est aussi conscient de ce qui est bon, de ce qui est droit. Il reconnaît que la loi de Dieu est bonne, mais il se retrouve en face d'un problème. Bien que voulant faire le bien, il se rend compte qu'il y a au-dedans de lui quelque chose qui le pousse à faire le mal, et que de sa propre volonté, il n'arrive pas à surmonter, il n'arrive pas à combattre. Donc il se sent comme prisonnier. Et l'état que décrit là l'apôtre Paul, c'est l'état aussi qui illustre parfaitement l'état dans lequel l'homme naturel se trouve. Il n'a peut-être pas connaissance de la loi de Dieu en parlant des Écritures, mais lorsque le Seigneur a créé l'homme, il a créé différemment des animaux. L'homme a une conscience, l'homme a une intelligence qui lui permet d'être capable, qui lui donne la capacité de faire la différence entre ce qui est bien et entre ce qui est mal. Il suffit de voir ne serait-ce que nos enfants qui n'ont pas appris beaucoup de choses, mais lorsqu'ils font une bêtise, ils ont une réaction qui montre déjà qu'ils veulent essayer de cacher la bêtise. Donc ça nous montre que même dans les gènes de l'enfant, il est capable de savoir que là, ce que j'ai fait, maman ou papa risque de me reprendre, on risque de me gronder. Nous voyons aussi les personnes dans le monde, en général, lorsqu'ils vont braquer, ils se cachent le visage. Si le braquage n'était pas mauvais, pourquoi se cacher? Pourquoi ne pas le faire librement? Donc le fait de vouloir dissimuler montre par là que l'homme a une conscience claire pour savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi, même si l'homme n'a pas connaissance de la loi de Dieu, mais la loi morale que Dieu a mise dans l'homme lui permet de faire la différence entre ce qui construit et ce qui va détruire, entre ce qui est l'amour et ce qui est la haine. Et voilà qu'il se retrouve prisonnier. Combien même il essaie de faire des efforts pour changer par ses propres forces, il se retrouve emprisonné, peut-être par la colère. Il essaie de se maîtriser, mais il se rend compte que la colère est beaucoup trop forte, beaucoup trop élevée pour qu'il puisse la combattre avec ses propres moyens. Voilà que, prise par la jalousie, elle essaie de combattre la jalousie, mais l'idolâtrie, la manière dont son mari est idole pour elle, fait qu'elle n'arrive pas à se détacher de cette jalousie. Nous avons déjà vu des émissions où on nous montrait la réalité des personnes qui étaient jalouses, mais d'une manière maladive, quoi. Donc, ne supportons même pas que son mari parle au téléphone sans qu'elle sache avec qui tu parles. Ne supportons même pas que si son mari a peut-être 2 minutes de retard sur l'heure de rentrée d'habitude, elle va tout de suite soupçonner que certainement il était avec une autre femme. Tellement malade. Et bien qu'elle en souffre elle-même, elle en fait souffrir son mari, mais elle tente de se battre et elle n'arrive pas parce qu'elle est esclave de cette jalousie-là. Voilà dans quelles conditions l'homme se retrouve aujourd'hui. Nous voyons bien aimé que beaucoup de personnes qui essayent, je dirais, de mettre des procédures pour essayer d'éduquer les hommes, ne serait-ce que par le code de la route, les moyens que les hommes vont mettre pour essayer de rectifier le tir, pour limiter le nombre d'accidents. Mais nous sommes les premiers témoins pour voir bien aimé que le comportement des personnes ne change pas. Les gens continuent à mourir sur les routes. Les gens continuent à mal se comporter sur les routes. Tout simplement parce que même quand ils essaient de faire des efforts, la réalité du péché les rattrape et les pousse à mal se comporter parce qu'il est tout simplement esclave. Le péché est un problème spirituel qu'on ne peut pas traiter avec des moyens humains. L'apôtre Paul dit, je sais que la loi est bonne, je sais ce qui est bien, mais ce qui est bien, même lorsque j'essaie de le faire, voilà que le mal me rattrape et je fais finalement ce que je ne veux pas. Nous savons que divorcer, ce n'est pas bien. Lorsque des couples sont en train de se déchirer, ils savent très bien au fond d'eux que les conséquences risquent d'être dramatiques, surtout quand il y a des enfants en jeu. Mais voilà que l'orgueil de l'un, la volonté de l'autre, ce que l'autre désire, ce que l'autre ne désire pas, Chacun va regarder à son propre intérêt, esclave de sa personnalité, esclave de lui-même, refuse de s'abaisser, refuse de négocier, refuse de discuter pour le bien de tous, et chacun reste campé dans sa position, tout en étant conscient des conséquences qui vont suivre. Mais voilà que dans l'esclavage du péché, l'orgueil pousse à faire du mal. Et nous allons voir des fois des gens se séparer, vouloir se séparer, et la même personne qui s'est séparée, c'est elle qui va entrer en dépression, c'est elle qui va commencer à se droguer parce qu'elle ne supporte pas. Alors qu'elle avait la possibilité de changer le cours des choses. Mais dépassée par les événements, dépassée par la puissance du péché, qui pousse l'orgueil à se manifester d'une manière puissante, fait qu'on prend des décisions tout en étant conscient de ce qui va se passer derrière. Et l'apôtre Paul fait ce constat. Et il va s'interroger, comme on pourrait s'interroger aujourd'hui. Mais qui peut me délivrer de ce corps de mort? Il avait conscience que de lui-même, il ne pouvait pas traiter ce problème. Il dit, je sais que ce problème-là, il dit, est dans ma chair. C'est dans ma chair, je ne peux pas faire autrement. Et nous ne pouvons pas non plus faire autrement, bien-aimés. Tous les moyens humains que nous allons tenter d'utiliser pour essayer de traiter le problème du péché, c'est du temps perdu. Parce que nous voyons que des générations passent, des siècles passent, et nous sommes là, les informations sont là, les documentaires sont là pour nous rappeler que dans l'histoire, il y a toujours eu des guerres. Dans l'histoire, il y a toujours eu des tueries. Il y a toujours eu des schizophrènes, des tueurs en série. Donc l'histoire nous rappelle que jusqu'aujourd'hui, le problème du péché demeure et surtout que l'homme n'a toujours pas trouvé la solution. Il est enfermé dans ce péché. Et l'apôtre Paul fait ce constat. Et à un certain niveau, nous pouvons aussi témoigner de cela. Lorsque nous avons le souvenir de ce que nous étions autrefois, colérique, dans le mensonge, dans l'impudicité, on peut témoigner pour dire que oui, autrefois, il m'était difficile de faire ceci, il m'était difficile de faire cela. J'avais essayé, mais j'avais échoué. Et la plus grande démonstration que nous avons échoué, c'est qu'aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est que nous avons fait le choix de suivre le Seigneur. Et celui qui se donne au Seigneur, c'est tout simplement la démonstration qu'il reconnaît son échec par rapport à la vie passée. Il reconnaît son échec vis-à-vis du péché. Mais les personnes qui refusent de s'humilier demeurent encore sous la domination de ce poison, sous la domination de ce virus qui est le péché et sont constamment dans cette attitude-là que l'apôtre Paul est en train de décrire. Je sais ce qui est bien, mais je suis conscient que ce qui est bien n'est pas en moi. Car je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. Et lorsque je prends la résolution de faire le bien, voici c'est le mal encore qui revient. Et le cycle ne fait que recommencer, ainsi de suite. Voilà la vie, bien-aimée, de celui qui demeure dans l'état d'homme animal. Celui qui refuse d'être sous l'autorité du Seigneur. Il est incapable de faire le bien. Voilà l'état dans lequel l'homme se trouve aujourd'hui. Voilà l'état dans lequel nous étions autrefois. Vendus à nous-mêmes, vendus au péché, morts par le péché. Nous prenons encore Galates 5 pour expliquer, donner encore plus de détails sur les conséquences et les conséquences du péché, le comportement de celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5. Galates 5, nous lisons verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'apôtre dit que les œuvres de la chair sont évidentes. Donc, les œuvres de celui qui est toujours dans l'état d'homme animal, c'est-à-dire ne vivant pas dans le salut de Dieu, on dit que ces œuvres sont évidentes. Ce sont les œuvres qui témoignent de ce qu'on est. Ce que l'on produit va définir ce que l'on est. Et l'apôtre dit que c'est évident. C'est une manière de dire que ça saute aux yeux. Voilà la manière de vivre de ceux qui sont encore sous la domination, sous l'esclavage du péché et de la mort. Et il va citer la débauche, l'impureté, le dérèglement. Et si nous voulons savoir si quelque chose est bien ou pas bien aimé, il nous suffit de voir ce que ça produit. Certains vont dire, mais je fume, mais ce n'est pas grave. Mais il suffit tout simplement de voir les conséquences de fumer la cigarette, qu'est-ce que ça produit ? La vie ou la mort ? Est-ce que ça construit ou ça détruit ? Fumer produit tout simplement des enfants qui vont se retrouver orphelins. Parce que par l'égoïsme des hommes de vouloir être comme libres par la cigarette, voilà que les conséquences vont faire qu'un enfant risque de se retrouver seul ou d'être placé dans un centre, dans un foyer. Et aujourd'hui, nous entendons beaucoup de témoignages des enfants qui sont passés dans les foyers, qui ont même été abusés par les éducateurs. Voilà les conséquences de ce qu'on va dire une petite cigarette pour être libre. Il dit que tous ceux qui sont ivrognes n'hériteront pas dans le royaume des cieux. Quelle est la conséquence de l'ivrognerie ? Nous avons vu dernièrement des jeunes vouloir faire des cascadeurs, faire des courses-poursuites dans le sud de la France, se sont tués et ils ont tué des innocents en même temps. Et ils avaient plus d'un gramme d'alcool dans le sang. Voilà où est-ce que l'alcool mène. Combien de personnes se sont retrouvées aujourd'hui SDF parce que alcoolique et la société ne supporte plus, la famille ne supporte plus, on le chasse de la maison. Et voilà ce que ça produit. Combien de personnes meurent chaque année à cause de l'alcool, d'une manière directe ou indirecte. Direct, c'est-à-dire en faisant peut-être une cirrhose de foie, je ne sais pas, indirectement en causant des accidents. Combien de personnes on a retrouvées roulant à contresens et tuant toute une famille à cause du problème de l'alcool. Mais ce problème-là est lié à l'esclavage du péché dans la vie de l'homme. Voilà les conséquences de l'esclavage du péché. L'apôtre Paul va citer encore, on ne va pas tout citer, mais les disputes, les divisions. Les disputes et les divisions. Il y a des gens qui sont champions pour être des querelleurs. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir de la bouche, ce n'est jamais pour construire. C'est toujours pour susciter des débats. Et ça ne construit pas. Ça, c'est le témoignage d'une personne qui est encore esclave du péché, sous la domination du péché, incapable de pouvoir contrôler sa bouche. Souvenons-nous que le Seigneur a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. C'est ça qui souille, parce que c'est ça qui vient du cœur. Et l'apôtre Jean va dire que celui qui sait tenir sa langue, il fait une bonne chose, parce que la langue est l'un des plus petits membres, mais qui cause beaucoup de dégâts. Qui cause beaucoup de dégâts. Dans celui qui est esclave, des disputes, des querelles, des discussions vaines, il est encore sous la domination du péché. Et nous savons que les divisions, bien-aimés, ça ne construit pas. Les querelles, ça ne construit pas. Les disputes, ça ne construit pas. Et c'est là encore l'une des conséquences du péché, bien-aimé, dans lequel l'homme est encore emprisonné aujourd'hui, celui qui n'a pas reçu le Seigneur. Les conséquences du péché font des dégâts. Et tout ça dès l'origine, avec, comme nous l'avons lu tout à l'heure, avec l'histoire d'Adam, les excès de table et les choses semblables. Tout ce qui sort, qui nous emmène, bien-aimés, à vivre en dehors de ce qui peut être, je dirais même immoral aux yeux des hommes. Dans Romains, il nous est dit que parce que les hommes ne se sont pas souciés de Dieu, ils n'ont pas voulu s'intéresser à Dieu, ils n'ont pas voulu l'adorer comme Dieu, la Bible dit que le Seigneur les a livrés à leur passion. Et c'est de là où est née l'homosexualité. Ils ont commencé à aller femme avec femme, homme avec homme, faisant des choses pour se détruire eux-mêmes, quoi. Et voilà le salaire du péché. Ça, c'est l'esclavage du péché. Aujourd'hui, il y a même des débats, malheureusement, dans le milieu chrétien, où on veut amener la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité. Faire passer l'homosexualité comme quelque chose de normal, que les personnes seraient nées comme ça, bien-aimées. L'homosexualité est la conséquence directement de la rébellion vis-à-vis de Dieu, de la désobéissance vis-à-vis du Seigneur. On ne peut pas accepter ça. Toutes ces personnes-là, Une personne bien-aimée qui est esclave ne peut pas être heureuse. On peut voir en apparence, oui, mais il semble heureux comme ça. Mais si nous acceptons ça, c'est que nous faisons de Dieu un menteur. Et la logique même nous fait comprendre que celui qui est esclave de quelque chose ne peut pas être heureux. Parce que lorsque tu es esclave, c'est-à-dire que tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Souvenons-nous, bien-aimés, de ce que l'apôtre Paul a dit. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Donc, je suis conscient de ce qui est bien. Donc, même les homosexuels, au-dedans d'eux, ont cette conscience-là que leur nature-là n'est pas normale. Autrefois même, ils se cachaient. Aujourd'hui, on veut les exposer, on veut les faire exister dans la société, mais autrefois, ils avaient conscience. Et je sais qu'à une certaine époque, peut-être que je n'étais pas né, mais que même l'homosexualité était reconnue comme une maladie. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, c'est quelque chose qui est normal. Non, celui qui est esclave du péché, forcément, il est en souffrance. Forcément, il est en souffrance. Et si nous ne faisons pas cette différence-là, bien-aimés, comment même nous allons pouvoir aider ces personnes? Comment nous allons prier pour ces personnes-là si nous considérons que leur vie est totalement normale? Dieu n'a pas créé les choses pour qu'elles soient ainsi. C'est le péché qui a emmené l'homosexualité. Le péché est la conséquence de la désobéissance. Tout ce qui est emmené par la désobéissance ne peut pas contribuer au bonheur de l'homme, ne peut pas contribuer à la paix de l'homme, ne peut pas contribuer tout simplement à la vie, à une bonne vie sociale de l'homme. Tout ce qui découle du péché ne fera que détruire, ne fera que éloigner les hommes de Dieu et les maintenir loin de Dieu. Nous prenons toujours, nous revenons à Romains 7, que nous allons relire, bien-aimés, pour comprendre la difficulté encore que l'apôtre Paul dit, et nous allons prendre à partir du verset 22, Romains 7, 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, au-dedans de lui, il a conscience que la loi de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul fait le constat de la difficulté qu'il y a dans la chair. Et il s'interroge en disant, mais qui me délivrera? Et aussitôt, il apporte une réponse, la seule réponse, qui répond finalement au problème du péché, au problème de l'homme. L'exemple que nous avons donné nous montre clairement que l'homme était dans l'incapacité de pouvoir se sauver lui-même. Nous voyons aujourd'hui par rapport à tous les péchés que nous avons cités, que ce soit l'ivrognerie, que ce soit la colère, que ce soit la haine et autres, bien-aimés, que tous les systèmes que les hommes ont tenté de mettre en place pour rendre le pays habitable n'ont abouti à rien du tout. On fait le code de la route, mais les gens continuent à mourir. On passe le premier radar, on accélère. Il fait un peu nuit, on voit qu'il n'y a pas de voiture au loin, on brûle le feu, on passe le stop. Le code de la route ne peut pas changer le cœur de l'homme. Nous voyons toutes les organisations internationales se réunir pour essayer d'amener la paix par les armes, par l'armée. Mais nous sommes témoins aujourd'hui, comme le Seigneur l'avait annoncé, que nous entendrons parler de guerre et des bruits de guerre. Et jusqu'aujourd'hui, cela continue. Toutes les organisations que les hommes ont essayé de mettre en place pour apporter une forme de salut n'ont jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné, bien-aimé. Nous voyons même dans certains pays islamistes où on dit que celui qui vole, on va lui couper les mains. Bien-aimé, on continue toujours de couper les mains jusqu'aujourd'hui. Malgré cette loi-là, les gens continuent à voler. L'homme est incapable de se sauver lui-même et est incapable de résoudre le problème du péché. Jusqu'aujourd'hui, cette loi continue à être appliquée. On continue toujours à lapider les gens. Malgré la menace. Malgré les menaces, on continue. Il y a des pays où la peine de mort existe. Jusqu'aujourd'hui, demeure, aux États-Unis. Mais on continue toujours de condamner les gens à mort. Donc malgré cette menace-là de condamnation à mort, ça n'empêche pas l'humain de dépasser la ligne rouge. Donc cela montre clairement que l'homme n'a pas les moyens de répondre à ce problème-là qui est le péché. L'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Nous avons dit, l'apôtre Paul a dit, je veux faire le bien mais je n'y arrive pas. Même les gens qui ont tué. Certainement qu'à un moment donné, il y a eu peut-être la volonté de faire un pas en arrière. Et souvent, lorsqu'on pose des questions à certaines personnes qui ont tué plusieurs personnes, ils expliquent, ils disent, mais j'entendais une voix qui me poussait, il y avait une force qui me poussait à le faire. Donc, ils étaient eux-mêmes dépassés par les événements. Parce que esclaves du péché. Et lorsqu'on est esclave du péché, bien-aimé, il faut savoir qu'il y a des esprits derrière qui viennent s'ajouter encore pour nous influencer et aller beaucoup plus loin dans notre péché, pour faire des choses comme les Hitler ont fait. Mais à la base, c'était des personnes qui n'avaient pas le salut de Dieu, qui n'avaient pas reçu le salut du Seigneur. L'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Et nous avons vu que même par la religion, bien-aimé, c'est comme ça que les mouvements comme le catholicisme s'est enrichi, parce que les gens ont dû beaucoup payer pour se faire pardonner de leurs péchés. Des indulgences et autres, plein toutes sortes de moyens, bien-aimés. Et ils se sont enrichis, donc cela montrait clairement que, même avec ce système-là, les gens n'arrivaient pas à lutter contre le péché. Autrefois, lorsque nous revenons dans l'Ancien Testament, nous voyons que les gens faisaient des sacrifices pour le pardon des péchés. Mais combien de sacrifices ont été faits? Le Seigneur a dit, mais vos sacrifices sont constamment devant moi. Mais est-ce que moi, je mange cette viande-là? Le Seigneur a vu, a manifesté, a montré clairement que l'homme n'était pas capable de pouvoir se sauver de lui-même, même par la loi, même avec les sacrifices. La chair ne pouvait pas lutter contre ce problème-là du péché. Alors il fallait une solution beaucoup plus grande, une solution beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Et c'est de là, bien-aimé, que nous parlons désormais du salut de Dieu. La grâce de Dieu, celle qui nous a été faite par son Fils Jésus-Christ. Nous prenons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, nous lisons à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en bonté, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons dans Tite, chapitre 2. Tite 2, nous lisons à partir du verset 9. Tite 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Donc nous voyons une similitude dans ces deux passages-là. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle ce que nous étions autrefois, rappelle la manière dont ceux qui n'avaient pas de Seigneur marchaient autrefois, dans l'iniquité, en offense vis-à-vis du Seigneur, dans toutes sortes de péchés. Il dit, voilà ce que nous étions autrefois, et voilà encore ceux qui sont sous la puissance de l'ennemi, voilà encore comment eux vivent. Il dit, mais nous étions comme ça autrefois. Mais si désormais les choses peuvent être différentes, si désormais nous avons compris que nous sommes créés pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est parce que le salut a été manifesté pour nous. Parce que nous avons accepté ce salut. Et l'apôtre Paul nous dit que ce salut, on y accède par la foi. La foi est la condition pour pouvoir accéder à ce salut, vivre le salut de Dieu. Le salut, bien-aimé, c'est un grand cadeau de Dieu. C'est un cadeau qui nous fait gratuitement pour nous, mais qui a eu un prix pour le Seigneur, le prix de son Fils unique. Et voilà qu'il l'offre aux hommes gratuitement. Mais il nous demande en contrepartie d'avoir la foi. Le problème de l'humanité, celui que, pour lequel certains courent encore aujourd'hui, cherchent encore des solutions pour chercher à diminuer le nombre de morts, pour chercher à faire cesser les guerres, voilà que le Seigneur nous en a donné tout simplement le secret et la réponse. Voilà la réponse, le secret pour arrêter le mal. C'est tout simplement d'entrer dans mon salut que je vous offre gratuitement en Jésus-Christ qui a été sacrifié pour nous. Jésus-Christ qui a accepté de porter nos fardeaux, qui a été condamné à notre place afin que nous ayons la vie éternelle. Gratuitement, le Seigneur nous offre ce salut. Et comme je disais, ce salut, c'est un grand cadeau dans lequel nous allons expérimenter la gloire de Dieu et sur la terre, mais surtout un cadeau dans lequel nous avons une promesse que le monde ne peut pas faire, que le monde ne peut pas nous donner, c'est-à-dire la vie éternelle. Le salut de Dieu commence sur la terre avec ses bénédictions, avec la paix, avec la joie, malgré tout ce que nous pouvons entendre aujourd'hui, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous pouvons demeurer dans la tranquillité parce que nous savons que Dieu désormais marche avec nous, que le Seigneur désormais vit en nous par son Esprit Saint. Ainsi, nous sommes dans le salut et nous attendons cette heureuse espérance qui va, je dirais, achever toute chose, qui va ponctuer notre vie sur terre et le cadeau que le Seigneur nous a offert. Et ce même passage-là, cette même idée est poursuivie dans le livre de Tite. Il dit « Exhorte les gens à bien se comporter envers leurs serviteurs ». Donc, il les encourage encore à avoir un comportement digne de la parole de Dieu. Et il va dire pourquoi. Il dit tout simplement parce que la grâce de Dieu a été manifestée. Jésus-Christ s'est livré lui-même. Voilà les conséquences de la grâce de Dieu. La condition, c'est d'abord d'accepter le salut. Souvenons-nous d'accepter, par exemple, de vivre par la foi. Souvenons-nous lorsque l'apôtre Pierre va prêcher après la Pentecôte. La Bible nous dit que les gens qui ont écouté eurent le cœur vivement touché. Et ils vont poser la question à Pierre. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre va leur dire, repentez-vous. Repentez-vous à cause du pardon de vos péchés et soyez baptisés. Repentez-vous. La foi est une chose, mais nous devons aussi accepter que nous avons échoué. On ne peut pas bien aimer accepter une solution si nous n'avons pas conscience que ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui échoue. Tu essaies de faire un calcul de mathématiques, mais avec une mauvaise formule. On te propose une autre formule, tu refuses. Parce que tu es convaincu qu'avec la formule, celle sur laquelle tu es en train d'insister, tu vas t'en sortir. Mais on te dit non, ça n'a rien à voir. Change de formule. Et ce n'est que tout simplement en réalisant que la formule que tu utilises jusqu'aujourd'hui pour ce calcul ne correspond pas. C'est là où tu peux saisir maintenant l'autre formule pour dire qu'avec celle-ci, je vais résoudre maintenant le problème. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Si nous ne sommes pas conscients dans l'état dans lequel nous étions, si nous ne sommes pas conscients que nous avons échoué, que nous étions dans la mort, voués à l'enfer, alors nous ne pouvons pas non plus accepter le salut. Et c'est pourquoi beaucoup viennent au Seigneur en disant « je crois », mais sans vraiment réaliser qu'ils étaient mauvais. C'est pourquoi le Seigneur va dire, celui à qui on a peu pardonné, aime peu. Mais celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. C'est-à-dire que celui qui considère que Dieu n'a pas beaucoup pardonné, parce qu'il se dit qu'après tout, je n'étais pas si mauvais que ça. Je suis venu au Seigneur, pour moi, c'était une conséquence logique de ma vie qui était plus ou moins déjà bonne. Donc Dieu m'a un petit peu pardonné. Ce sont ces gens-là qui ont du mal à vivre pleinement la liberté en Christ. Ce sont ces personnes-là qui ont du mal à se livrer totalement au Seigneur, à consacrer totalement leur vie. Ils vivent un salut qui est totalement partiel. Mais celui à qui on a beaucoup pardonné, le Seigneur dit, c'est celui-là qui aime beaucoup Dieu. Parce qu'il réalise vraiment dans l'état dans lequel il était lorsque le Seigneur est venu le chercher. Il réalise combien toutes les fois il était prêt de mourir. Et si la mort l'avait trouvé, qu'il serait en enfer. Donc le simple fait de repenser, de revoir tous ces épisodes-là de sa vie où la mort aurait pu le trouver dans le péché, mais que Dieu lui a fait grâce, celui-là aimera beaucoup le Seigneur. Celui-là vivra un salut plein dans le Seigneur. Mais voilà que pour ça, il faut d'abord s'humilier et reconnaître que oui, j'ai échoué. Jusqu'aujourd'hui, la manière dont j'ai mené ma vie, ce n'était pas ça. Les méthodes que j'ai utilisées pour résoudre mes problèmes, ce n'était pas ça. Je reconnais que j'ai échoué et je mets ma foi dans le Seigneur. Il est écrit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Romains 19. Voilà la condition du salut qui est accessible à tous, qui est proposée à tous, parce que la Bible nous dit que le Seigneur Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, tous les hommes, qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est qu'une question de choix. Mettre notre foi dans le Seigneur, réaliser ce que nous étions autrefois, réaliser notre échec, et nous engager avec le Seigneur. Le salut est pour nous tous. Nous étions tous condamnés à cause du péché d'Adam et à cause de nos propres fautes que nous avons continué à faire. Mais voilà que le Seigneur nous propose le salut. Il a répondu au problème du péché, au problème du mal, au problème de l'esclavage du péché. Alors celui qui est encore esclave du péché doit savoir qu'il y a une solution. Il y a une réponse qui a été donnée par le Seigneur. C'est ça le salut de Dieu. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Éternel Dieu, sois béni, sois glorifié. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire, pour ton salut, parce que c'est vrai que nous ne le méritions pas. Dans ta fidélité, dans ton amour, Seigneur de gloire, tu t'es souvenu de nous, Seigneur. Dès le commencement, Seigneur de gloire, tu avais prévu, Seigneur, déjà, le plan, Seigneur de gloire, pour nous racheter. Et nous ne pouvons que être reconnaissants, Seigneur de gloire. Nous ne pouvons que nous humilier devant toi et te dire merci. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir libérés, Seigneur Dieu de gloire, du problème du péché, Seigneur, parce que nous étions esclaves. Esclaves de nos raisonnements. Esclaves de notre chair. Esclaves du mensonge, Seigneur. Esclaves de la colère. Et tu nous as donné, Seigneur de gloire, la solution à tous ces problèmes. Nous ne pouvons que nous humilier, Seigneur de gloire, élever nos mains, Seigneur de gloire, et te dire que oui, tu es tout puissant. Tu es grand, Seigneur de gloire, au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, te prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore, Seigneur de gloire, dis oui à ton appel. Seigneur, c'est pour toutes ces personnes que nous voulons crier à toi, Seigneur, parce que nous sommes conscients que celui qui est esclave est aussi dans la souffrance, Seigneur. Et nous savons que beaucoup de gens souffrent, Seigneur de gloire, et font souffrir encore d'autres personnes autour d'elles. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui es la solution. C'est pourquoi nous prions afin que tu te révèles à toutes ces personnes, Seigneur, aux membres de nos familles qui ne te connaissent pas, Seigneur, à nos collègues de travail, Seigneur, les camarades de classe, Seigneur, tous ceux, Seigneur de gloire, qui sont au bord du suicide, tous ceux, Seigneur de gloire, qui sont au bord de la dépression, Seigneur, que dans ta fidélité, dans ton amour, tu puisses te souvenir d'eux, Seigneur de gloire, à cause du sang de l'agneau, à cause de Jésus, Seigneur de gloire. Glorifie-toi dans leur vie, Seigneur, car tu es venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous avons réalisé, Seigneur, que nous étions perdus, nous étions loin de toi, Seigneur. Et par nos propres forces, Seigneur de gloire, c'était échec sur échec. Mais voici, Seigneur de gloire, nous avons reçu la délivrance. Et nous voulons que cette délivrance, Seigneur de gloire, soit connue, Seigneur de gloire, de tous. Connue de tous les hommes, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur de gloire, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur.
Comment ne pas te louer?